I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts pour la bagarre?
C'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant? L'hippopotame, c'est quand même très très fort.
Messieurs, bienvenue au Fight Club.
Pas de combat, pas d'entourloupe, je veux un combat propre, c'est compris?
Bienvenue dans C'est qui le plus fort, votre rendez-vous dédié à la bagarre. Dans C'est qui le plus fort ou C'est qui la plus forte, on s'amuse à opposer des personnages de fiction, des animaux, des artistes, voire des personnalités historiques qui n'ont en temps normal aucune raison de s'affronter ou qui ont parfois des raisons de s'affronter comme on va le voir aujourd'hui. Pour le simple plaisir de l'exercice ou pour découvrir des choses de manière ludique, nous allons au bout de ces oppositions imaginaires avec l'aide d'une experte ou d'un expert qui nous aide à répondre à la question très simple, c'est qui le plus fort ? Aujourd'hui, on refait le match d'une des plus grosses rivalités de l'histoire de la musique, qui avait atteint son pinacle lors d'un duel mémorable en 1995, lorsque nos deux clients du jour étaient les rois du monde de la Britpop. Aujourd'hui, c'est Gros Sourcil contre Petit Minois, Manchester contre Londres, Rock Anglais contre Pop Arty, Blur versus Oasis. Avec moi, une experte et grande admiratrice des deux groupes, si je me trompe pas, enfin je crois un plus que l'autre, j'ai avec moi Force Rose, a.k.a. Sophie Kupa, qui s'est téléportée de JV Le Mag, ZQSD et ABCD pour venir parler Britpop avec nous. Bonjour Sophie, comment ça va?
Bonjour, ça va bien, merci de m'avoir invitée.
Bah écoute, avec plaisir, hein. Tu sais, c'est jamais facile de trouver des gens qui se sentent prêts à dire « j'aime autant Blur que Oasis ».
Mais parce que c'est pas vrai, j'ai menti. J'ai menti sur mon CV pour pouvoir être embauchée.
Tu veux dire que ce combat est truqué?
Bien sûr, évidemment.
Alors, ce nouvel album d'Oasis, on lit partout dans vos interviews que c'est un album crucial, essentiel, que ça va vous permettre de revenir au top. D'abord, est-ce que vous avez vraiment le sentiment de ne plus l'avoir été?
Non, on est toujours au top depuis que je suis là.
Éventuellement, pour les personnes qui n'étaient pas sur Terre au cours des 20 dernières années ou qui éventuellement s'en foutaient aussi, parce que ça peut arriver, est-ce que tu voudrais rappeler rapidement qui est qui entre les frères Gallagher et la team Albarn?
D'abord, donc à ma gauche, on a donc Blur, un groupe londonien qui ont sorti leur premier album en 91. C'était les chouchous, les enfants chéris de l'Angleterre. C'est même un peu eux, avec d'autres groupes comme Pulp, Suede ou Elastica, qui ont lancé cette mode de la Britpop, un peu en réaction à toute la vague américaine, notamment du grunge, Nirvana et tout ça qu'il y avait à l'époque.
Oui.
Et à ma droite, on a Oasis, eux, ils sont arrivés un peu plus tard, leur premier album c'est 94, je crois, eux ils viennent de Manchester, ils viennent du Nord, ils viennent des coins plus pauvres, ils viennent avec leur accent et leur grande gueule, et ils sont venus un peu casser cette jolie image dandy qu'avait la pop britannique de l'époque.
C'est bien résumé. Allez, on va lancer le combat. Alors, premier round, mais c'est tout simple. Qui a vendu le plus d'albums, ou plutôt qui a vendu le plus de disques, puisque on les a souvent opposés, nos amis Blur et Oasis, et c'est parti d'une rivalité autour de la sortie d'un single, c'est ça?
Ouais. en fait, c'est en 95, si je dis pas de bêtises. Blur était donc déjà bien, bien installé. Et Oasis, c'était les petits nouveaux. Et ils ont sorti un single le même jour. C'était Country House pour Blur, c'était Roll With It pour Oasis. Et c'était alors une rivalité qui a été plus ou moins créée par leurs maisons de disques respectives. Le coup de sortir l'album le même jour, je crois qu'il y en a un qui était vendu une livre moins que l'autre.
Ah oui.
pour influencer l'air de rien, tu vois, ah les, ouais. les ventes. Et je crois que c'est vraiment effectivement le point de départ un peu de cette fameuse rivalité. Donc 95, c'était déjà le deuxième album de Oasis.
Ouais.
Donc ils étaient en fait ils avaient sorti un Definitely Maybe en 1994, donc leur premier album.
Ouais.
À l'époque où Blur en était déjà à son troisième. C'était Parklife à l'époque. Et où là où donc je disais Blur était déjà installé, était déjà le meilleur groupe anglais, il gagnait toutes les récompenses au Britpop et tout ce qui existait à l'époque. Et quand Oasis est arrivé, donc c'était un peu les concurrents un peu sale gosse. Et donc pour teaser un peu la sortie des albums suivants, donc l'année suivante, 95, donc c'était Morning Glory pour Oasis et ça allait être, mince comment il s'appelle,
The Great Escape.
Ouais. Pour Blur. Donc il y avait donc les singles, ça se fait encore, j'étais en train de me dire est-ce que ça existe encore les disques, les singles aujourd'hui, mais oui je crois.
Ouais, sauf que c'est des vidéos YouTube.
C'est ça, ouais, c'est du démat, mais là à l'époque les sorties de simples, de singles, donc les CD de titres,
ouais.
Les gens qui ont grandi dans les années 90 savent exactement de quoi je parle. Donc les maisons de disques avaient décidé de sortir Country House et Roll With It le même jour, mise en vente le même jour, pour un peu teaser un peu tout ça, et bah ça a marché, hein. Ça a marché du point de vue du marketing, la guerre Blur Oasis a commencé comme ça.
Ouais, il y avait eu des news du NME, le News Musical Express, le magazine de référence en Angleterre. Ils s'envoyaient des grosses vannes, voire des insultes par interview interposé, enfin bref.
Interposé, ouais. Et il se trouve que cette bataille-là du single, c'est Blur qui l'a emporté. C'est Country House qui s'est vendu par pelleté.
Ouais, ouais, je crois qu'ils l'ont vendu, ils l'ont plus vendu. Et alors, ce qui est drôle, c'est que tout le monde le sait, enfin tout le monde se le disait, et maintenant c'est même Damon Albarn l'a dit, c'est que c'était probablement parmi les plus mauvais singles qu'ils ont jamais sortis les uns et les autres. Enfin,
les uns et les autres, ouais.
En tout cas, à cette époque. Parce qu'après, ils ont
c'est
sorti
pas les meilleures chansons de leurs albums respectifs, ça c'est clair.
Non, et du coup, c'est quand même assez ironique qu'ils se soient fait la guerre sur deux chansons très très moyennes, quoi.
Que même eux, je crois que le terme exact que Damon Albarn utilisait pour qualifier Country House était shit.
Ouais, donc, c'est ça.
C'est pas sa préférée,
non,
on va dire.
Non. Et en plus, c'est les préférés de personne, quoi. C'est typiquement les chansons que tu passes un peu quand t'écoutes l'album.
Tu sais quoi, moi, c'est justement Country House qui m'a fait découvrir Blur. Je me souviens exactement de j'ai un souvenir très précis de moi dans la salle de bain en train de me laver les dents, et il y a les radios à une époque où j'écoutais encore la radio, donc 1995,
ouais.
C'était il y a environ 2500 ans. et je me souviens très bien qu'un Country House, elle passait tout le temps, elle était vraiment martelée à la radio. Et moi, c'était à une époque où j'écoutais pas vraiment. J'avais 15 ans donc, mais j'étais pas tout à fait encore une adolescente. Moi, j'étais. Tu vois, la tête d'ampoule un peu coincée. Moi, j'écoutais encore des boys bands à l'époque et des trucs comme ça, quoi. Et donc ça, c'est la première musique d'ado, on va dire, à la mode, je mets des guillemets partout, hein, que j'ai vraiment écoutée. Je me suis dit, oh là là, cette chanson, elle est trop bien. C'est quoi ? J'ai été acheter l'album. Donc c'est vraiment, moi, une chanson qui m'a marqué, un album qui m'a marqué, parce que du coup, dès que l'album est sorti, je l'ai acheté. Ouais. Après, j'ai acheté tous les albums de Blur, les précédents qui étaient sortis. Et c'est vraiment une chanson qui m'a marquée, quoi. Donc moi j'ai vraiment un affect pour Country House que j'aime beaucoup, alors que oui, c'est limite une chanson vaguement parodique, en fait c'est limite là, une parodie de Parklife.
Oui.
Et c'est a posteriori que j'ai découvert Parklife, j'ai découvert Modern Life is a Rubbish, leur deuxième album que je trouve génial.
Donc
moi j'aime bien Country House. Après Roll With It d'Oasis, c'est clair que elle est sur l'album, en plus elle est en deuxième, juste après t'as Wonderwall.
Oui.
Laisse tomber, quoi. Plus personne se souvient de Roll With It.
Non, c'est clair. C'est vrai que comparativement, je pense que dans l'échelle de Blur, Country House est peut-être mieux placé en termes de qualité versus l'œuvre globale, quoi. Roll With It, elle est vraiment, vraiment, vraiment oubliable, quoi. Mais bon, bref.
Ouais.
Et bon, alors ça c'était la première partie de la baston des chiffres, mais si on passe à la deuxième partie, c'est-à-dire la comparaison globale de qui a vendu le plus sur l'ensemble de sa carrière, je pense que c'est pas la même musique, quoi.
Ben là après on arrive clairement, on voit une différence de marché déjà. Blur, c'est très anglo-anglais, quoi.
Ouais.
Ils font de la musique d'anglais pour les anglais, ça parle de la vie quotidienne de la middle class anglaise, c'est de la pop un peu guirette, un peu absurde, là où Oasis fait du rock un peu plus comment dire universel.
Ouais.
Ça parle de types qui galèrent dans la vie, ça parle à tout le monde, ils ont en plus une image plus un peu plus crade, un peu plus gritty, qui collait complètement à l'ambiance grunge américaine qui dominait à l'époque, à cette époque-là. Ce qui fait que Oasis a tout de suite beaucoup mieux marché aux États-Unis qu'en Angleterre. Et mine de rien, en termes de taille de marché, c'est pas tout à fait la même limonade. Ce qui fait qu'Oasis a vendu beaucoup d'albums, et Morning Glory c'est quand même l'album donc sorti en 1995. De suite à Wonderwall, t'as Don't Look Back in Anger, rien que ça, Champagne Supernova, enfin c'est des singles énormes.
Ouais. Et puis Oasis c'était un groupe de stade, quoi. Il remplissait les stades. Blur n'a jamais été un groupe de stade, quoi.
Non, clairement. Ouais. Je pense qu'il y a ça aussi qui joue. Ouais.
Et c'est effectivement Oasis. C'est un groupe de chansons. Je pense que c'est vraiment un groupe de chansons à chanter avec une bière à la main.
Ah bah putain. Non mais il y a pas une blague comme ça. C'est même devenu un mème. Enfin, de dire que dès que t'allumes un feu, il y a un type avec une guitare qui chante Wonderwall qui apparaît spontanément, quoi. Ça en devient même insupportable. Mais c'est vrai que ces chansons-là, tu peux les chanter même sans comprendre les paroles. Tout le monde peut fredonner Wonderwall ou Champagne Supernova ou ces chansons là c'est des hymnes limite,
complètement,
alors que Blur c'est toujours des trucs un peu chelous.
Complètement.
Ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est qu'un des singles de Blur qui a bien marché aux États-Unis, c'est Song 2, qui est donc sur l'album Blur, qui est sorti en 97, qui est l'anti-chanson de Blur. C'est une chanson qui se fout de la gueule, qui a été écrite en disant Damon Albarn, qui a dit « Moi aussi, si je veux, hein, je peux faire du rock, du punk. » et c'est comme ça qu'il a fait Song 2, quoi, avec deux riffs et le refrain, c'est « Wouhou !» Et c'était pour prouver que lui aussi pouvait le faire, et ça a marché, quoi. Ouais. Et je pense que derrière, il était dégoûté, enfin, dire oh, « bah, ok, c'est bon. » Et puisque c'est comme ça, je vais aller faire de l'électro chelou avec des dessins animés.
C'est vrai que ça doit vraiment foutre le seum à tous les artistes du monde qui sont sur des trucs hyper, hyper arty, pointus, et puis à un moment donné ils disent « Ah, je vais vous faire une blague, je vais faire une chanson super basique », et là ça marche.
Ah bah c'est toujours comme ça.
Ouais, c'est clair.
Après, si ça rapporte les royalties qu'il faut, tant mieux, mais oui, c'est pas tout à fait... En fait, ils ont été opposés, ces groupes, en termes de marketing, mais musicalement, ils ont pas grand-chose à voir, à part avoir le fait d'être anglais et d'être sorti au milieu des années 90. En vrai, il n'y a pas grand-chose à voir entre Blur et Oasis, quoi.
Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, bon, on en reparlera un peu plus tard, mais ils sont même pas dans. Ils sont, pour moi, il y en a un qui est vraiment de la Britpop et l'autre pas vraiment, mais on en reparlera plus tard.
Ouais, je suis d'accord. Mais bon, un point pour Oasis, ouais. Pour les sous. Allez,
ouais, pour les,
ils ont
pour...
gagné ça.
Un point pour les
sous, ils ont gagné.
Je crois que, alors c'est toujours compliqué les chiffres de vente, c'est toujours sujet à controverse, mais le chiffre que j'avais trouvé, c'était 18 millions d'albums vendus pour Blur et 50 millions pour Oasis.
Ah ouais, d'après c'est quand même c'est une belle branlée quand même.
Ouais. Sur ce coup-là.
Bravo les alcooliques du Nord. Pardon. Non, mais vraiment, c'est sûr que je pense qu'Oasis est plus connu en dehors des cercles, tu vois, rock ou quoi. Je pense en termes du grand public, grand public, ou même des jeunes d'aujourd'hui, Oasis sera plus connu que Blur, ça, c'est sûr.
Probablement. Bon, allez, on passe au round suivant. Baby. Are you gonna be the one that saves me? And after all, you're my wonderwall. Alors, qui a eu les meilleures chansons? Entre parenthèses, sur le conducteur, il est écrit selon la critique ou selon nous.
Pas sûr que ça soit pareil, c'est ça?
Je sais pas. Non, alors, il y a quand même une histoire... Oasis a une histoire compliquée avec la critique, mais surtout un peu plus la critique française, la critique anglaise aussi quand même. Mais je sais qu'en France, on a l'image d'Oasis comme un groupe qui a eu son heure de gloire avec deux albums. On dit souvent les deux premiers albums d'Oasis sont géniaux, le troisième est à moitié nul et à moitié bien, et après c'est tout pourri jusqu'à un léger rebond sur le dernier album qu'ils ont fait avant de se splitter. Et c'est vrai que moi, en tout cas, c'est ce que je pense de leurs albums, même si sur chaque album, je trouve qu'il y a quand même au moins toujours une ou deux bonnes chansons. Mais c'est vrai qu'il y a des albums qui ont été vraiment durs à écouter dans les années 2000. C'était pénible, quoi.
Je t'avoue que moi, j'avais déjà lâché l'affaire à cette époque-là, mais autant pour Blur que pour Oasis. Donc, je ne me permettrai pas de juger.
Alors, dans le même temps, Blur a eu une évolution assez différente. Alors, toujours vis-à-vis de la critique française, hein. Vers un groupe plus arty, plus expérimental. Il y a après Blur, après l'album Blur où il y avait Song 2 dont tu parlais, il y a l'album 13 qui est sorti.
Il y a 13, ouais.
Qui était ultra expérimental et qui a quand même laissé beaucoup de monde sur le côté de la route. Mais du coup, d'un point de vue critique, c'était bien vu, quoi. C'était un peu comme quand Radiohead a commencé à virer. Sur des trucs électro chelous où une partie des gens écoutaient poliment et une partie disait putain c'est tellement génial, et je n'aimais pas d'avis, hein. Je dis juste que ça polarise en tout cas en France Oasis a commencé à être vraiment mal vu, et je sais que ceci dit ils étaient même déjà un peu mal vus par un certain public même au moment de leur grande époque, peut-être parce qu'ils étaient un peu trop mainstream, je sais pas trop.
Après il y a le côté Oasis est très tout à l'heure je disais que Blur était très anglais, faisait de la musique très anglaise, alors qu'Oasis s'exportait mieux. Mais il y a quand même quelque chose de profondément anglais chez Oasis quand même, et le côté comment dire, classe ouvrière. Il y avait dans la bagarre Blur Oasis, en vrai c'est une lutte des classes. Blur c'est vraiment la classe moyenne à tendance petite bourgeoisie du sud de l'Angleterre, plus éduqués, ils ont fait des études. Oasis, c'est des branleurs, ils le disent eux-mêmes. Avant de faire de la musique, ils bossaient sur les chantiers, ils n'ont pas fait d'études. Donc il y a un côté comme ça, qui plaît forcément, une success story qui plaît forcément.
Ouais, ouais.
La revanche du gars de la rue, quoi.
Ouais.
Je sais qu'il traitait, on parlera des punchlines plus tard, mais, mais il y avait quand même, il qualifiait Blur d'étudiant en école d'art, quoi. Enfin, tu vois, c'est des.
Parce qu'ils étaient en plus, je crois, non ?
Ouais, sûrement.
Un peu comme tous les mecs de pop anglaise de Londres, quoi.
Ah mais grave, quand tu vois les gars de Suède ou de Pulp, moi j'adorais Pulp aussi. Ouais, mais et ça plaît aux Français, par contre, justement les dandys anglais. Ça, les Français, on adore.
Complètement.
Ça, les Français, on se roule dedans, quoi. C'est exactement ce qu'on aime quand on parle de l'Angleterre.
Ouais.
Et alors qu'en vrai, l'Angleterre, c'est celle des mines, c'est celle de. C'est à quelle époque il est sorti le film. Merde, comment ça s'appelle ? Ah, j'ai sur le bout de la langue. The Full Monty.
Ah oui, bah c'est à cette époque-là.
C'est à peu près dans cette époque-là.
Ouais. Fin 90, ouais.
Et ça montre bien l'état de l'Angleterre à cette époque-là, des classes ouvrières qui sont laissées sur le carreau, du chômage, dans tous ces coins-là. Le film se passe à Sheffield, les gars d'Oasis sont de Manchester, c'est plus ou moins, enfin, c'est à peu près au même endroit. Je dis à peu près parce que ma géographie laisse à.
Ouais, en tout cas, c'est économiquement
complètement
c'est
désiré.
Quoi.
Mais voilà, et évidemment que ça parle. C'est moins glamour, c'est sûr, mais ça part d'une vraie revanche, quoi. Et ça m'étonne pas que les critiques musicaux français, ces trois mots sont importants. Ou en France, on adore tout ce qui est comme ça, enfin un peu élitiste, un peu arty, un peu machin, bobo, ce que tu veux, tous les mots que tu peux dire. Et ça m'étonne pas du tout que Blur. Est un succès critique en tout cas en France supérieur à Oasis. Même sur The Great Escape, il y a un duo avec Françoise Hardy. Putain, qu'est-ce que tu veux faire de plus comment tu veux plus brosser les Français dans le sens du poil que ça, quoi.
C'est,
merde.
C'est clair. Et alors, côté Angleterre et même côté international, la différence, il y a quand même une différence. Blur a quand même gardé une meilleure image critique pendant toute sa carrière, au contraire de Oasis qui a quand même fléchi, mais largement moins que la perception qu'on en a en France. Et si on va sur des sites comme allmusic.com où tu as en fait, c'est un peu le IMDB de la musique, quoi, et tu vois la discographie des deux, tu les mets côte à côte et tu vois qu'effectivement il y a un fléchissement dans la note critique moyenne des albums d'Oasis à partir de Beer Now. Alors que c'est moins fort chez Blur, mais et même dans les notes des auditeurs d'ailleurs, mais c'est beaucoup beaucoup moins fort que la catastrophe qu'on présente en France en fait.
En France. Et mais ça m'étonne pas. Enfin oui, il y a vraiment ce côté un peu élitiste français qui doit exacerber ces différences là, quoi, par rapport au reste du monde. Puis il y avait les frasques des frères Gallagher, enfin surtout de Liam, qui est quand même non, un connard notoire. Je veux dire, là, le type, il avait aussi tendance à s'embrouiller avec les journalistes et tout, ça aide pas des masses, quoi.
Oui, c'est vrai. Et bah écoute, puisqu'on en parle, je sais par contre que c'est un type qui a toujours été ultra accessible et sympa avec ses fans, apparemment.
Ouais.
J'ai souvent entendu ça, quoi.
Bah ça c'est cool, ouais.
Mais, bon.
Mais sinon, pour revenir sur les meilleures chansons, je sais pas, selon nous, j'ai pas réfléchi, moi, je sais pas quelle. Si je devais choisir mes chansons préférées. Moi c'est tout con, Oasis, vraiment Supersonic, qui était leur premier single sur leur premier album, j'adore cette chanson.
Ouais.
Elle marche super bien, t'as un rythme de batterie pendant 5 minutes, mais ça marche d'enfer. Et cet album-là, Definitely Maybe, il est vraiment cool. Toutes les chansons sont chouettes. Je suis en train de me dire, tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté, je pense que je vais le réécouter. Je le trouve vraiment chouette.
Et
je pense aussi qu'Oasis ça n'a fait que baisser après.
Ouais.
What's the Story Morning Glory, c'est l'album de tous les tubes. Moi, il y a une chanson que j'aime beaucoup sur cet album qui s'appelle She's Electric.
Ouais.
Qui est une chanson que j'aime vraiment beaucoup. Dont je comprenais pas forcément toutes les paroles au début. J'ai beaucoup appris l'anglais, donc j'avais 15 ans quand j'ai commencé à écouter Blur et Oasis, j'ai beaucoup appris l'anglais en les écoutant et c'est... heureusement j'ai pas chopé l'accent de Manchester mais j'ai appris plein d'expressions, c'est très chouette. Mais ouais, donc Oasis, ils ont vraiment des chouettes chansons comme ça. Et dans les tubes, Wonderwall, je peux pas la saquer, mais je pense que c'est comme tout le monde. Au bout d'un moment, t'en
c'est
peux
trop.
Plus quoi.
C'est trop.
Donc Look Back in Anger, faut avouer que c'est une putain de bonne chanson.
Ouais. Ouais.
Ça, on peut pas leur enlever.
Non, c'est clair.
Côté Blur, je sais pas toi en Oasis ou est-ce que
non
tu...
bah pareil que toi en fait moi pour Oasis j'ai une vraie passion pour l'album pour le premier album Definitely Maybe ouais. Et aussi j'ai une vraie passion pour l'album Masterplan qui est compilation de Phase B avec pas mal de chansons chantées par Noel Gallagher.
Ok. Et celui-là, je le connais pas, tu vois.
Ouais, bah il est passé un peu inaperçu, mais c'est alors c'est souvent là, c'était un peu l'album aimé par la critique dont on parlait avant. C'était genre oui, mais comme ouais. Masterplan, c'est vachement bien. Et bref, mais sinon oui, comme toi, enfin, moi je trouve qu'effectivement ça n'a fait que décliner même à partir du deuxième album. Je trouvais que le deuxième était déjà moins intéressant que le premier.
Ouais, je trouve aussi.
Le troisième moins que le deuxième, etc. Et après le tout dernier album qu'ils ont sorti avant de se séparer était plutôt solide, mais malheureusement je suis incapable de citer une chanson quoi.
Ouais.
Par contre, bon après moi c'est très personnel, mais je suis un peu inconditionnel de Blur en fait, donc je pense qu'il y a au moins 50 chansons de Blur que je trouve parfaites, donc du coup
moi aussi.
Et à toutes les
époques. J'aime beaucoup Modern Life is Rubbish comme album.
Ouais.
Donc c'est celui qui est sorti en 93, c'était déjà leur deuxième album, c'est là où ils ont commencé à être vraiment connus. Après en Angleterre, Liger, leur premier album, 91. Il a quand même pas mal marché et t'as des chansons comme She's So High qui continuent à jouer sur scène 30 ans après quoi, ou There's No Other Way qui sont restés des tubes. Mais sur Modern Life is a Rubbish, je sais pas, je les aime toutes quoi. For Tomorrow c'est la première, elle est parfaite. J'ai littéralement l'album sous les yeux là, je suis en train de tout regarder. Sunday, elle est géniale. Ça, c'est vraiment. Mais c'est vrai que c'est très, 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 très anglais, londonien.
Ouais.
Quand t'es une Française de 15 ans qui rêve d'aller à Londres t'acheter une paire de Doc Martens, forcément, quand t'écoutes Modern Life is Rubbish, ça te parle. Et sur Park Life, je pense que c'est peut-être là où c'est arrivé un peu en Europe, qu'ils ont commencé à être connus internationalement.
Ouais.
T'as Park Life, évidemment, mais t'as Girls and Boys qui avait quand même vachement tourné à la radio à l'époque. Qui sont des chansons qui sont sorties en single, il y a eu des clips et tout ça. Ça tournait quand même pas mal à l'époque.
Ouais. On le revoit même encore de temps en temps quoi. Mais même après, je trouve que l'album Blur est vraiment génial et même après, moi j'ai même leurs albums les moins cotés, je trouve qu'il y a des chansons de ouf dedans. Quoi.
Je t'avoue que Blur, j'ai commencé à lâcher l'affaire à partir de ce moment-là. C'est le dernier que j'ai acheté. Donc 97, c'est l'année où j'ai commencé moi à écouter plus de métal.
Ouais.
J'ai commencé à lâcher un peu, mais tu vois même c'est l'époque où j'ai commencé à écouter des Slayer, des Sepultura, des trucs comme ça, Machine Head, voire même aller jusqu'au death metal, le black metal, et j'ai toujours continué à écouter Blur à côté de ça. Toujours, j'ai jamais arrêté. C'était, tu vois, il y avait quand même quelque chose qui me parlait quoi. J'ai pas forcément continué à acheter les nouveaux albums, mais par contre, ou même sur The Great Escape, qui est donc le premier album que j'ai acheté après avoir découvert Country House, t'as quand même Charmless Man, donc qui est le clip avec comment il s'appelle ?
Jean-Marc Barr,
ce clip était quand même incroyable. C'était génial.
Encore un truc pour draguer le marché français.
Ah ouais, bah oui, non mais clairement, clairement. Ils ont fait pour la réunification franco-britannique. Toi, ils devraient avoir une médaille, Blur, quoi. Mais pour moi, cet album, c'est que des tubes, quoi. Toutes les chansons sont ouf. Stereotypes, c'est une chanson que j'aime beaucoup, beaucoup encore aujourd'hui, qui est la première chanson de l'album. Ça marche vraiment très très bien.
Et The Universal aussi, mec, qui me rend.
Oh là là, elle me fait chialer. Vraiment, littéralement. The Universal, elle me fait
chialer. Avec son clip kubrickien et tout ça. Enfin, bon, bref, c'est
ouais, cool. ouais, ouais.
Bon, bon voilà, on donne le point à Blur, c'est comme ça.
Ah bah les meilleures chansons c'est Blur. Hein. Des os, pas des os quand même.
Voilà. Bon alors on va passer un round où on sait déjà que les frères Gallagher vont être à leur avantage. C'est qui a sorti les meilleurs punchlines.
Évidemment.
Bon là c'est victoire des frères Gallagher par KO. C'était quand même leur grande marque de fabrique de débiter des conneries en interview qui la plupart du temps ne pensaient même pas en plus. Enfin.
Non, ah oui, je pense que c'était vraiment de la grande gueule, de la provoque, oui, bien sûr.
Ouais. Il y a un truc pour lequel j'ai. Enfin, ça, c'est vraiment, ça fait vraiment partie des choses pour lesquelles je les aime beaucoup, en fait. Et notamment toutes leurs vannes sur Bono, en fait.
ouais. Mais c'est surtout Liam hein, Gallagher qui est connu pour ça.
Ouais, c'est vrai que c'était surtout Liam. Mais Noël, mine de rien, a sorti des bonnes aussi. Hein. Après, il s'est calmé, Noël. Mais genre, Bono se pointe vers moi et me dit « Ça va, fiston ? Je suis pas ton fiston, connard. »
C'est génial.
Ce mec-là a fait de bons disques, mais de là à m'appeler fiston. Donc ça, c'est du Liam.
Évidemment.
Robbie Williams, le gros danseur de Texas. Donc ça, c'était Noël. Jack White a fait une chanson pour Coca et c'est tout. On dirait Zorro qui aurait bouffé trop de donuts. Encore Noël.
Il a un problème avec la grossophobie, j'ai l'impression. Il a peur de prendre un peu du bide, peut-être. Ça lui fait peur, ouais.
J'ai pris vraiment random. Mais... alors, ça, c'en était une de Noël aussi. C'était une qui était un peu trash. C'était J'aimerais que Blur crève, que John Lennon revienne et que les Beatles se reforment.
Ça, tu sens que c'était clairement dit pour ouais. La caméra, quoi.
Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Chris Martin ressemble à un prof de géographie.
C'est vrai. C'est drôle parce que c'est vrai.
voilà. Noël, encore très classe. J'ai rien contre lui, donc entre parenthèses, Damon Albarn. Je pense juste que sa meuf, Justine Frischmann, donc la chanteuse d'Elastica, dont on n'a pas parlé, est moche. Voilà.
Alors bravo, pareil, la misogynie, attaquer un mec sur la soi-disant laideur de sa femme.
Ah, c'était une autre époque aussi. Hein.
Voilà.
Je pense que même Booba et Caris, ils en sortent pas des comme ça maintenant. Quoi.
Et puis franchement, qualifier Justine Frischmann de moche, ouf.
Ouais, c'est
on la sent la mauvaise foi quand même.
Ouais. Mais alors il se trouve que j'ai sous la main un livre qui s'appelle Les Turbulents Frères Gallagher, qui est une compile de quand même 189 pages de punchline des frères Gallagher. Donc autant dire qu'il y a de quoi faire. Ah oui, ma préférée, je crois, c'est Vous pourriez ranger vos briquets, on n'est pas Elton John. Donc ça, c'était Noël, Noël pendant Wonderwall. Pendant concert.
J'imagine à chaque fois, ça, je me pose toujours cette question-là pour tous les groupes. Enfin, quand t'as un tube comme ça, ça doit te casser les couilles de le jouer tout le temps.
Ouais.
À mon avis, alors t'es content des royalties qui tombent, mais à chaque fois que tu fais un concert, bon bah les gars, c'est le moment où on joue Wonderwall, quoi. Toi, t'es obligé. Et je pense que des types comme Oasis, ça devait encore plus les faire chier, quoi.
Ouais.
Et si en plus les mecs commencent à sortir des briquets, ouais, je pense que j'aurais dit comme lui, quoi.
Il y a un dernier truc dont on n'a pas parlé, c'est dans les punchlines, c'est l'espèce d'arrogance folle des frères Gallagher qui les rendait du coup assez attachants, je trouve, où ils répétaient en permanence qu'ils étaient le meilleur groupe du monde, en fait.
Bien sûr.
Et alors, donc c'est ce qui énervait aussi beaucoup, je pense, de gens en France et je pense que beaucoup d'Anglais aimaient parce que bah déjà l'anglais est quand même plus chauvin. On l'a constaté d'ailleurs dernièrement. Et donc je pense que ça les fait quand même kiffer pas mal d'entre eux de se dire ouais, on a un groupe et en fait c'est le meilleur groupe du monde quoi. Donc soit ils y croyaient ou soit ça les faisait marrer, je pense. Alors qu'en France, c'est vrai que ce genre d'arrogance ça énerve en fait.
Ouais, clairement. Et puis comme on disait, c'est aussi la revanche d'une certaine classe sociale. Et il y a un moment où. Personne, ça sert à rien d'attendre qu'on te fasse des compliments, tu commences, faut se les faire soi-même quoi. Et comme quand tout le monde disait que Damon Albarn était plus beau que Liam Gallagher, alors entre nous on s'en tape, et que Gallagher répondait non, c'est pas vrai, il est moche, moi je suis beau. Alors que le type il a quand même une tête de cul, mais.
En plus,
mais voilà.
Ils ont eu des sacrés errements capillaires en plus.
Alors ça, c'était les années 90, c'est pas bien de juger. Il y a eu des morts des deux côtés en termes de cheveux.
C'est
mais,
vrai.
Mais ce côté-là, je suis le mec le plus beau et je joue dans le meilleur groupe du monde. Bah, ouais. Ok, gars, si tu veux. Ça, c'est vrai que c'est assez drôle quand même.
Bon, allez, on accorde quand même à Oasis qu'ils ont les meilleurs punchlines.
Ah bah évidemment.
Bon alors, round suivant, quel groupe a donné les meilleures carrières solo et les meilleurs side projects?
Eh ben, c'est comme je te disais avant qu'on commence l'émission, je savais même pas que les Gallagher avaient eu des carrières solo. Donc, de base, bon bah...
Non, bah là, il n'y a pas photo en fait. C'est-à-dire que d'un côté, on a bon, effectivement, les frères Gallagher, après la séparation tonitruante d'Oasis, dont on reparlera dans pas longtemps... ont sorti des albums solo. Alors Noël a sorti deux ou trois albums solo, je crois qu'il est en train de sortir le troisième là. Il a sorti un single que j'ai pas encore écouté parce que apparemment c'est pas bon en fait, tout
d'accord.
Simplement. Mais le premier album que Noël avait sorti était plutôt ok, il l'avait sorti peu de temps après la fin d'Oasis. Le deuxième album était genre comme le premier mais moins bien, ce qui est toujours relou.
Ce qui est une marque de fabrique d'Oasis.
C'est vrai qu'ils font toujours ça.
Ils donnent tout au début, puis après.
Et alors, Liam a monté un groupe qui s'appelait BDI. Il s'est engueulé avec tous les membres du groupe, ce qui est aussi un grand classique. C'est vrai qu'on a oublié de parler du turnover d'Oasis, en fait, de l'équipe,
ouais.
D'Oasis.
Parce que autant Blur a gardé le même line-up, alors. Presque, ouais. Jusqu'à la fin, il y a quand même eu. Ils ont viré Graham Coxon.
Ouais.
Enfin,
mais ils l'ont repris à la fin.
Seulement tardi. Ouais, l'histoire finit bien.
Ouais.
Mais bon, oui, il était trop. Il picolait trop et ça commence à foutre le bordel. Mais autant chez Oasis, bah, d'ailleurs, tout le monde connaît Noel et Liam Gallagher. Alors les autres, le bassiste et le batteur.
Bah, y en a eu, en plus, il y en a eu cinq différents. Donc Oasis, c'est frère Gallagher, quoi.
Clairement.
Et des mecs autour qui vont et qui viennent, quoi. Et donc, ça a été pareil pour BDI. Et là, Liam a ressorti un album solo l'année dernière que j'ai écouté une fois. Bon, voilà. Bon, c'est assez anecdotique, quoi. À côté de ça, on a Gorillaz, qui est...
Voilà, un petit groupe dont vous avez peut-être entendu parler.
Dont limite, Blur est le side project, en vrai, hein, parce qu'en termes de vente et tout, c'est Gorillaz, au niveau international, Gorillaz est largement plus connu que Blur, en vrai.
Mais ce qui est marrant, quand Gorillaz a été lancé, ça n'a pas tout de suite été su, cette phrase est française, je ne sais pas, on n'a pas tout de suite su que c'était Damon Albarn derrière.
Oui.
Le
oui,
fait
oui.
qu'il se cache derrière des personnages animés. Après, bon, dès qu'il y a eu un peu de chant, c'est assez vite grillé, il a une voix quand même qu'on reconnaît très vite. Mais tu sentais que le type, il faisait ça un peu pour... Enfin, que ça ne soit pas Damon Albarn... Le groupe, quoi.
Ouais, mais bon, ça se sentait, mais en même temps, je trouve que la musique de Gorillaz est complètement cohérente avec tout ce qu'a commencé à faire Damon Albarn à partir du début des années 2000, que ce soit avec Blur ou sur même les milliards de side projects qu'il a, en fait, et qui sont, que je trouve quasiment tous passionnants, en fait, musicalement. Alors, ils n'ont pas tous marché, mais que ce soit The Good, The Bad and The Queen. Le disque qu'il a fait au Mali, en fait, avec des musiciens maliens, qui est, moi je suis pas du tout calé musique africaine et tout ça, c'est vraiment pas mon truc, mais il se trouve qu'il a vraiment réussi un truc avec cet album là. Il a fait un opéra,
Journey to the West, enfin ouais. Adapté de cette légende-là.
Du Roi Singe, ouais. Ouais
du
ouais.
Roi Singe, ouais.
Donc, qui était avec aussi son comparse de Gorillaz, Jimmy Hewlett, qui s'occupait de la DA. Il a fait, The Good, The Bad and The Queen, je ne sais plus si je l'ai cité, mais qui a... Bon, dans le dernier album, est un peu pourri, mais ce n'est pas grave. Le premier, je trouve, est vraiment un classique. Il a fait un album solo qui est vraiment bien. Il a fait, il a fait mille trucs et en général, c'est quand même bon. C'est subjectif, hein, mais c'est quand même vraiment de qualité et surtout, c'est toujours une proposition originale en tout cas. Après, on aime, ouais, on n'aime pas, mais il y a une vraie proposition, quoi.
Ouais, clairement. Je sais que moi, Gorillaz, par exemple, c'est pas ma tasse de thé du tout.
Ouais.
Mais je connais les 2-3 tubes que tout le monde connaît. Mais je sais que je reconnais l'inventivité et la qualité du truc, quoi. Et de voir que ça se renouvelle tout le temps,
oui,
enfin, que Albarn arrive à se renouveler régulièrement, je pense que c'est pas une rockstar comme d'autres peuvent l'être. Il est pas super célèbre, tu vois, mais il y a un côté, il a une carrière comment dire, qui arrive à se maintenir et à conserver une qualité et une inventivité. Il a une longévité, voilà, qui est assez assez rare finalement.
Ah ouais, complètement, ouais.
Ce qui est cool par contre, c'est qu'entre-temps, Alex James, je sais pas si tu sais ce qu'il est devenu, un peu, parce que j'ai été fouiné sur la page Wikipédia pour voir ce qu'il était devenu. Alex James, ouais, il a acheté une espèce de manoir au fin fond de la Cambrousse et il fait du fromage.
Ouais. Ouais, ouais,
et
ouais,
je trouve ça génial. J'avais déjà un petit crush sur lui quand j'avais, ouais, 15 ans, et autant te dire que c'est officiellement l'homme de ma vie. Le mec, ouais, non, la musique, j'aime bien, je vais aller faire du fromage, quoi. Oh là là, trop bien.
Il a un festival même, fromage et musique, je crois.
C'est excellent,
qui est,
quoi,
quand même,
non,
la meilleure,
t'imagines,
idée du monde.
Ouais, mais clairement. Et puis c'est pas le truc le plus anglais que t'as jamais entendu de ta vie, quoi.
C'est clair.
Mec, il s'achète. Alors bon, il fait du fromage anglais. Hein.
Oui.
Ça, voilà, reste.
Bon.
Pas vraiment du fromage, mais c'est quand même non j'adore les choix de vie de cette personne, et ouais, je crois que Dave Rountree, le batteur, lui, s'est engagé en politique.
Ah oui,
lui vient du punk au départ.
Ouais,
c'est marrant, et il a toujours été comme ça impliqué dans les trucs là, et il est représentant travailliste dans je sais plus quelle circonscription, enfin c'est marrant.
D'accord, quoi. D'accord. Mm. Bon, donc le point de la carrière solo va à Blur.
Bah oui.
On est à deux partout. Oui. C'est le moment décisif.
Ah.
Alors, dernier round. Qui est le plus rock'n'roll?
Ah bah oui, forcément.
Forcément. Alors, c'est l'occasion justement de reparler de... Bon, on a déjà longuement expliqué, je pense, pourquoi les frères Gallagher sont rock'n'roll. Hein. Je crois qu'on l'a déjà bien dit. Donc, spontanément, on se dit que ça va aller aux frères Gallagher. Mais j'ai quand même envie de parler de Alex James et Graham Coxon, qui sont, je pense, les deux membres les plus rock'n'roll de Blur, pour le coup.
Ouais.
On
vient de parler du fromage déjà.
Ouais.
Excuse-moi, c'est quand même super rock'n'roll de faire du fromage, voilà.
Alors si l'addiction aux drogues dures est rock'n'roll, dans ce cas-là, Alex James aussi est très très rock'n'roll parce qu'il a eu un parcours complètement dingue. Il a eu un énorme problème d'addiction à la cocaïne ou l'héroïne, je sais plus, et il en a fait un documentaire même en fait où il explique, ouais, tout ça dans qui est passé sur la BBC. Qui est assez fou, et il a eu vraiment des gros 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 problèmes de santé à cause de ça. Il a une dévariation de poids complètement folle, enfin il est vraiment passé proche de la mort, quoi. Et il s'en est sorti donc, grâce au fromage, apparemment.
Grâce au fromage, mais oui, c'est la solution à tout. Le fromage, de toute façon, cherchez pas.
Je crois qu'un jour je vais faire Tom de Sawa versus Roblochon, en fait.
Ok.
Peut-être que je réinviterai papa pour l'occasion.
Et il est pas objectif.
Et donc ça c'était quand même pour Alex James qui a quand même toujours une attitude incroyablement rock'n'roll en toutes circonstances, quoi, avec sa clope au bec.
C'est lui notamment au Brit Awards de 95, je crois. Cette l'année où Blur a tout remporté, genre meilleure chanson, meilleur groupe, meilleur ce que tu veux. Il est monté sur scène, récupérer le trophée avec un t-shirt Oasis. Quel sale con. Cela dit, Oasis s'est vengé l'année suivante quand c'est eux qui ont tout gagné.
Oui.
Les frères Gallagher ont commencé à parodier Parklife en changeant les paroles. All the People, enfin toute cette partie-là, en se foutant de la gueule de Blur. Donc bon.
C'est vrai qu'à ce moment-là, avant de grandir un peu, parce qu'on a tendance à oublier, mais en fait, Blur, ils ont percé, ils étaient quand même hyper jeunes, quoi. Enfin, les deux d'ailleurs, hein. Je crois que Liam Gallagher avait 20 ans à la sortie de Definitely Maybe, quoi. Enfin, c'est quand même.
Ah bah c'est quelque chose. C'était clairement des gosses, enfin, ouais. C'était hyper puéril. Hein.
Et Damon Albarn était assez sale gosse quand même aussi à ce moment-là.
Ouais. Clairement. Après, ils sont. Une fois qu'en fait la vague de succès et que les deux sont devenus vaguement has-been, ils sont assez vite réconciliés en fait. Enfin, surtout Damon et
Noël,
Liam.
Ouais.
Noël.
Ouais.
On les a vus sur scène plusieurs fois ensemble.
Ouais.
Ils ont fait des duos. Ça, c'était pas une vraie bagarre. Quoi.
Ouais. Bon, après, il y a eu les problèmes d'addiction aussi de Graham Coxon, t'en as parlé tout à l'heure, problèmes d'alcool qui ont fait qu'il s'est fait éjecter du groupe pour un album.
Ouais.
Pour Think Tank, qui est considéré comme l'album le plus faible de Blur, mais bon, je trouve qu'il y a quand même quelques classiques dedans, mais bon, peu importe. Et alors, il faut qu'on parle quand même des embrouilles entre les deux frères Gallagher, parce que ça, c'est quand même.
Sinon, pour rester sur Blur deux secondes,
oui,
Damon Albarn, il a touché vite fait à l'héroïne aussi.
Il y a eu
des problèmes de drogue et d'alcool, pas mal, un peu chez tout le monde. Quoi.
Ouais, ouais.
Ça doit pas laisser une ambiance très épanouissante, tu vois, ce genre de climat.
Bah, je pense qu'il y a eu une période où vraiment il pouvait plus saquer, en gros, hein, concrètement. Mais bon, ça,
Y a eu un moment dans son documentaire aussi, Alex disait que suite, je sais plus quelle année, peut-être après avoir reçu leur en 95 vraiment où ils étaient au pic, où ils ont tout gagné, il y a eu une grosse soirée après, tu sais, après les Britpop.
Ouais.
C'était soirée paillettes, soirée, tu vois, décadence, rockstar, machin, et Alex disait de Graham. Qu'il avait vraiment clairement une gueule à se dire mais qu'est-ce que je fous là, et qu'il était à deux doigts de sauter par la fenêtre. Ambiance, j'ai rien à foutre là. Un peu même état d'esprit que Kurt Cobain, en fait, de sa gloire, genre mais moi ce que je veux faire c'est de la musique, foutez-moi la paix, quoi. Donc tu sens qu'il y avait dès le départ quand même
des fragilités,
un malaise, qu'est-ce que c'est que de devenir une rockstar internationale à 20 ou 22 ans, 25 ans même, alors que toi, ce que tu as envie de faire, c'est de jouer de la musique dans des bars sombres. Enfin, ils n'avaient pas du tout ce côté. Je pense que la différence entre Graham et Damon, c'était ça, en fait. Je pense que la célébrité convient tout à fait à Damon, Albarn, là où Graham Coxon, au contraire, ça le terrifie, quoi.
Ouais. D'ailleurs, il a sorti, j'en ai pas parlé dans la partie solo, il a sorti quelques albums solo assez confidentiels, quand même. Mais dont il était content, quoi.
C'est le principe. Enfin, je pense que pour lui, c'est vraiment sa façon de voir les choses.
Ouais. Mais bon, en tout cas, c'était assez. Il y a un documentaire. J'ai oublié le nom. Qui raconte leur réunion, en fait, à Blur.
Ouais.
Bon, c'est le truc que tu regardes avec un mouchoir à la main pour éponger les larmes et tout, tellement c'est émouvant quand t'es un peu fan de Blur, quoi.
Tu m'étonnes.
Alors que le documentaire sur la reformation d'Oasis. Il est pas encore arrivé, quoi. Alors moi j'étais à Rock en Seine le jour le jour de la fin d'Oasis.
Raconte.
C'était assez drôle, en fait. C'était ce qui était drôle, parce que donc pour resituer, ça faisait déjà à ce moment-là des années et des années qu'on savait que Liam et Noël se foutaient sur la gueule régulièrement, dès que possible. Ils s'étaient déjà embrouillés des tas de fois, etc. Donc ça faisait aussi partie de l'identité du groupe, hein, cette rivalité même entre les deux frères.
Ouais.
Et puis un beau jour, c'en était trop, ça a été la fin, le clash de trop. Donc ils se sont embrouillés dans les coulisses de Rock en Seine avant de monter sur scène. Ils ne sont pas montés sur scène. J'ai encore la photo de l'écran géant avec écrit un truc du genre « Désolé, concert annulé, Madness qui est revenu sur scène en quatrième vitesse pour jouer à la place d'Oasis ». Et puis voilà, c'était fini d'Oasis.
Les boules.
Et depuis ce jour-là, ils se parlent plus, quoi.
C'est ouf, c'est qu'en plus tu te dis son frère quoi. Enfin putain.
Et ils sont frères.
Noël, ça doit être sympa.
Ouais, ouais. Mais et alors, je sais qu'il y a régulièrement des histoires avec la maman qui essaye de un peu.
ça doit être horrible. Putain, là en tant que maman, je me dis mais quelle horreur quoi.
Ah ouais.
T'as envie de les prendre chacun par une oreille, tu sais. Bon, maintenant vous faites la paix. Hein. Noël, tu rends son Big Jim à Liam, et Liam, tu t'excuses pour avoir cassé son Lego, d'accord ? Non, mais c'est, ça doit être affreux.
Ouais. Bah ouais. Alors, je sais pas si. Je crois qu'ils se reparlent un tout petit peu de temps en temps. Des fois, il y a des espoirs fous de reformation d'Oasis, mais. Je sais pas si ça arrivera un jour, je sais pas si c'est souhaitable d'ailleurs, mais.
Oui, alors oui, musicalement, c'est peut-être pas la peine, mais. Ouais.
Après, s'ils se reforment et qu'ils nous refont, bon, tu vois, qui nous refont une tournée où ils jouent Definitely Maybe, bon, éventuellement.
Ah oui, on ira, évidemment.
Mais donc ouais, ça a été quand même, je trouve que c'est quand même une des sorties les plus rock'n'roll de l'histoire de la musique, je trouve. Se bastonner dans les coulisses et faire annuler
ouais,
le concert
à deux minutes avant de monter sur scène ouais. C'est chaud quand même
et finir la carrière d'un groupe comme ça c'est quand même assez légendaire je trouve.
Bon là pour le coup c'est rock'n'roll
ouais donc bon il y a eu ça et puis je pense que tout le long de l'émission on a pas mal rappelé le côté rock'n'roll des frères Gallagher
évidemment
en long l'argent travers donc évidemment il marque ce point des plus rock'n'roll.
Ah bah oui avec avec ce lot de tristesse qui va avec quand même, parce que c'est marrant d'être rock'n'roll à 20 ans.
Ouais.
Là, ils commencent à s'approcher de la cinquantaine, toutes ces charmantes personnes.
Oh, tous, oui.
Ils ont
oui,
la quarantaine
oui.
Bien tassée,
oh,
en tout cas.
Je pense qu'ils ont passé les 50, ouais.
Il y a toujours un moment où... je sais pas, tout le monde peut pas être Lemmy Kilmister, quoi. Tu peux pas être rock'n'roll jusqu'à 70 ans.
Alors en plus, Liam a découvert Twitter, ce qui était pas forcément la meilleure chose qui
c'est
pouvait
vrai.
Lui arriver.
C'est vrai, il a un compte Twitter.
Ah oui, il a un compte Twitter où il tweet régulièrement ce qui lui passe par la tête. Donc tu peux,
j'imagine, oh putain, faut que j'aille voir.
On peut imaginer le niveau. Donc des fois il tweet des saloperies sur son frère, des fois il tweet, des fois il tease une réconciliation, bon il souffle un peu le chaud et le froid, tout ça. Mais...
Oh merde, c'est mais un bon, peu pathétique non ?
Bah on peut voir les choses de deux façons, on peut se dire c'est bien, il s'est pas assagi, même avec les années il est toujours aussi rock'n'roll, ou on peut aussi se dire, bon au bout d'un moment, c'est vrai que Damon Albarn par exemple, pour le citer, hein, s'est drapé dans une certaine dignité maintenant, je trouve qu'à un certain âge, c'est pas mal non plus.
Ouais, bah quand on lui pose la question encore aujourd'hui, c'est qui le meilleur entre Blur et Oasis ? Alors déjà, la question qui lui fait rouler des yeux, enfin le mec, je pense qu'il a fait un milliard de trucs entre-temps, et il répond, bah les meilleurs, c'était Oasis, pour fermer le débat, en fait.
Ouais.
Parce que je pense qu'il en a rien à branler, c'est ça, il a 50 ans, qu'est-ce que tu veux venir le faire chier avec ça, quoi.
Ouais. Bon, il dit comme nous, du coup, en fait, hein, on est en train de dire que... On est quand même en train de dire que malgré le fait qu'on est tous les deux plutôt Team Blur, on donne la victoire à Oasis.
Oui, mais oui, c'est qui le plus fort ? C'est Oasis, parce qu'ils font plus de bruit, parce qu'ils sont plus... tu les remarques plus, quoi. Enfin,
ouais.
C'est ceux que les gens connaissent plus, qu'on retient le plus. Mais en vrai, on préfère Blur.
Bon... Bah écoute, voilà, c'est comme ça. Oasis gagne le combat du jour, mais...
Bravo.
Bravo à eux.
Bravo à eux. Tu sais, on va leur écrire, là, comme Liam, il a un Twitter, là, on va aller lui dire.
T'as
et
raison.
Peut-être qu'il va être content, on va lui dire que par contre, il faut qu'il partage son trophée avec son frère, et peut-être qu'ils vont se réconcilier. Et peut-être que c'est grâce à nous qu'il y aura un nouvel album d'Oasis.
Oh, la success story de rêve, quoi. Ça serait
putain,
tellement bien.
Putain, tu vois, quoi.
Bah, c'est possible.
Et par contre, si Alex James a des petits échantillons de fromage à faire goûter, il y aura mon adresse mail dans les notes de l'émission, évidemment.
S'il pouvait faire une version, s'il pouvait délocaliser son petit festival en Haute-Savoie, là je réserve le TGV, quoi.
Je pense qu'il y a des. Oui, il y a un. Comment on appelle ça? Un jumelage à faire avec des villes françaises. Clairement.
Bon, le match n'est pas tout à fait fini parce que les auditrices et les auditeurs peuvent aller voter. sur c'estquiplusfort.com pour dire qui est le qui selon elle ou eux est le plus fort. Donc il y aura un match retour, peut-être que Blur va gagner le match retour.
Je pense que Blur aura le prix du public, ouais.
C'est possible, c'est possible.
Surtout, on revient à notre discussion de début, surtout en France où on préfère quand même les garçons propres sur eux.
Ouais, exactement. Sophie, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver quand on parle pas de Blur et d'Oasis?
Mais ça me fait plaisir parce que ça fait très longtemps que j'ai même jamais parlé de Blur et d'Oasis. ça me fait vraiment plaisir, c'était cool. Sinon, auditivement, vous pouvez me retrouver tous les mois dans ZQSD, donc un podcast de jeux vidéo, dans ABCD, un podcast sur la parentalité geek.
Ouais.
Toutes les semaines dans Alors t'as fait quoi ce week-end, une petite pastille de recommandations culturelles que je fais avec ma camarade Irène. Et si vous aimez lire et acheter des magazines en papier comme ça se faisait dans les années 90 à l'époque de Blur et d'Oasis, vous pouvez me retrouver dans le magazine JV Culture Jeux Vidéo, un magazine de jeux vidéo.
Très bien, super, voilà. Bon, impeccable, on mettra tous ces liens en référence dans le descriptif de l'épisode. Écoute, encore merci, et puis merci à nos auditrices et auditeurs, et à très bientôt pour une autre rivalité sanglante dont on vous réserve la surprise.
Au revoir.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.